Bienvenue à Yazi, le balado où on explore comment l'intelligence artificielle transforme notre quotidien. Aujourd'hui, on s'attaque à un irritant universel, les casse-têtes administratifs. Que ce soit pour demander un remboursement de vol, trouver du financement pour un projet ou remplir les bons formulaires dans le milieu de la santé, le système peut rapidement devenir un vrai parcours du combattant. Si l'IA pouvait remettre un peu d'ordre dans tout ça et surtout redonner du pouvoir aux personnes face à des structures lourdes, pour en discuter, on reçoit deux invités bien ancrés dans le réel. Thierry Dor, PDG de Appli AI, qui nous montre comment l'IA peut démocratiser l'accès aux subventions, crédits et autres financements, particulièrement pour les entrepreneurs issus de milieux sous-représentés. Aussi, Jacob Charbonneau, président de Vol en retard, qui nous explique comment sa plateforme simplifie les démarches de compensation pour les voyageurs, tout en défendant leurs droits face aux compagnies aériennes. Un épisode qui explore une idée simple, mais puissante. Bien pensé, l'IA peut nous libérer de la paperasse, rendre les services publics plus accessibles et faire avancer la justice. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur IA du Neuf, le podcast où on explore l'IA dans l'industrie et notre vie quotidienne. Je suis donc Laetitia Constantin, développeuse web et IA à explorer, et je suis accompagnée de Rémi, VP et cofondateur.
Je suis très excité par le podcast aujourd'hui. Comme à l'habitude, on parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société, en industrie, en entreprise. Là, on a deux joueurs clés montréalais qui ont un focus à rendre des processus tedious, je recherche le mot français, des processus difficiles à accomplir, le plus facile à exécuter. Je vous laisse vous présenter, Thierry, Jacob. On commence avec Thierry, disons.
Comme Thierry, vous voulez, ouais.
Qui es-tu? Quelle est ton entreprise et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça résout des problèmes?
Ben déjà, merci de me recevoir, Laetitia. Merci, Rémi. Puis, je suis en tellement belle compagnie avec Jacob. Je suis inspiré et c'est inspirant. Moi, je suis Thierry Lindor. Je suis citoyen actif, tout d'abord. Je suis entrepreneur. Je suis d'ascendance africaine. Je crois que c'est important de le mentionner. Quand on a une voix, faut parler de qui on est, puis de notre identité. Je suis délégué au G20, aux Nations Unies aussi. J'ai eu la chance de représenter le Canada sur des plateformes internationales, notamment au Japon, en Arabie Saoudite et aux Nations Unies, évidemment. Et je suis aussi entrepreneur. J'ai été entrepreneur longtemps. Ça fait longtemps que je suis entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur. Dernière itération de ma vie entrepreneuriale, c'est en technologie intuitive. Et oui, en facilitation de procédés, de processus qui sont insidieux, je dirais. J'utilise les termes même pernicieux parce que je pense qu'ils sont faits souvent par design à garder le statu quo. Et nous, ce qu'on fait, selon moi, on est des libérateurs, des révolutionnaires. On essaie de rendre le statu quo désuet. On essaie de lui faire honte au statu quo. Et moi, j'évolue dans un monde où est-ce qu'on démocratise l'accès au financement. Appli AI, c'est une société qui aide les usagers à matcher, appliquer et à recevoir du financement non dilutif, des appels d'offres, des subventions, des crédits d'impôt. Et on a été appelé par BetaKit il y a un mois, le Tinder économique des innovateurs au Canada. Ouais. Sauf qu'on ne matche pas les gens avec des mots de tête, on les matche avec de l'argent. Puis on utilise OCR, NLP, le clustering, pour s'assurer de faire l'autopopulation de leurs demandes sur n'importe quel PDF dans l'espace, encore une fois, économique. Et aussi, on corrige un anticipateur de texte qui est un peu comme un Grammarly ou un Antidote, mais au lieu de corriger des fautes de grammaire, ça corrige des fautes de grant et d'appel d'offres. Donc, 62 000 usagers, profitables. Nos usagers ont eu 70 millions de non-dilutifs en 2 ans et demi, principalement des femmes, des gens de la communauté BIPOC, donc noirs, autochtones ou des personnes de couleur, parce que c'est eux qui ont les grands défis de financement au Canada. Puis quand tu n'as pas de démocratisation de financement, tu n'as pas d'innovation. Donc, voilà ce qu'on fait. J'ai fermé ma grande gueule. Je pense que ça serait au tour de Jacob.
Je sais pas ce qu'on peut dire après ça. Là, tu sais. Moi, je suis fier d'être assis à côté déjà. En fait, Jacob Charbonneau, cofondateur, président de Vol en retard. Volant Retard, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie au maximum. Exact. En fait, on donne l'accès aux droits d'une certaine façon, mais pour les voyageurs aériens, donc on simplifie le processus au maximum pour que les gens puissent obtenir des indemnisations. On a d'ailleurs milité à la Charte canadienne pour obtenir une charte qui vient protéger les voyageurs au Canadien, qui est une nouvelle. Hein? C'est arrivé en 2019, donc avant ça, dès 2017, on militait. Chambre des communes, Sénat, l'Office des transports, même par la suite, on a continué d'être impliqué parce qu'il y avait une déficience au Canada. Il y en a toujours une, mais beaucoup plus grande à l'époque. Moins de 2 % des gens faisaient des demandes d'indemnisation simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant que ça existait. Mmh. Personne n'en parlait. Mmh. Et c'était extrêmement dur à obtenir. Moi, je viens d'une ligne aérienne. J'ai travaillé 10 ans pour une ligne aérienne, puis j'ai vu comment c'était difficile pour les gens d'aller chercher l'argent qui leur était dû, alors que c'était dans des lois. Ça existait en Europe depuis 2004-2005 et les gens ne savaient simplement pas qu'il y avait le droit à des indemnisations. Donc, c'est un peu le free for all. Puis, on se bat contre des lobbies qui sont énormes, qui mettent des pressions gouvernementales énormes, des entreprises qui ont des réseaux énormes. Puis, on a décidé qu'on allait s'attaquer à ce marché-là.
Le statu quo encore.
Oui, tout à fait. Hein? Ben, c'est un peu la base de l'entrepreneuriat. Hein? C'est de ne pas accepter le statu quo et décider de faire la différence ou de changer quelque chose. Donc, on a lancé Vol en retard à l'époque sur un mode plus, après voyage, les gens pouvaient venir. On a lancé une plateforme pour obtenir des indemnisations après coup. Et depuis, on est passé à un mode beaucoup plus proactif. On a lancé un assistant virtuel pour les voyageurs. Donc, vraiment, on va les accompagner, on va les informer, on va les éduquer sur c'est quoi les droits, c'est quoi les obligations du transporteur spécifiquement pour leur situation en temps réel. Parce que souvent, les gens sont laissés à eux-mêmes. Présentement, ils annoncent une grande grève avec Air Canada, 46 % de la capacité canadienne.
C'est fou, là.
Puis, on va stopper les opérations, possiblement, si la grève est déclenchée à 100 % là, tu as 25 000 Canadiens qui veulent revenir au Canada tous les jours, qui ne pourront pas. Déjà, tu as 110 000 voyageurs par jour qui vont voir leur vol annulé et... impossible de rejoindre quelqu'un chez Air Canada. Évidemment, ils sont débordés. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je peux-tu me payer une chambre d'hôtel? Qu'est-ce qui arrive? Puis, tout ça va avoir des répercussions sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce que il y a un effet domino qui va se créer, un effet boule de neige. Et là, ça devient chaotique. Puis, c'est les lacunes du système canadien. Parce qu'on a un duopole. Là. Il y a juste deux lignes, deux grandes lignes aériennes. Fait que s'il y en a une qui n'opère pas, ben, toute l'industrie, finalement, est un peu sur pause. Donc, c'est un peu ça.
Quel casse-tête.
Oui, tout à fait, surtout pour les voyageurs. C'était déjà un casse-tête quand ça allait bien, donc quand ça va pas bien, c'est encore pire.
Vraiment.
Plutôt, on cherchait le nom de l'épisode. Ça nous semblait évident là où vous œuvrez, mais ça me semble encore plus évident maintenant. On parle de l'IA contre les maux de tête.
Oui.
On souhaite... je veux faire une demande de financement.
Oui.
Tout de suite, j'ai déjà une migraine. j'ai des problèmes de transport. Je suis à l'aéroport, puis on me dit non, tu partiras pas aujourd'hui. Il faut tout que je réorganise ma vie autour de ça.
Ouais.
Je vois mal comment les gens pourraient être mieux desservis que par les solutions que vous avez. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi d'inclure l'IA dans ce que vous faites?
Ouais. Ben en fait, de notre côté, on a commencé par le mettre dans le back-end, hein, donc dans nos systèmes, dans nos procédures pour simplifier la tâche à nos équipes, donc pouvoir faire plus avec moins, donc vraiment pour lisser le processus à l'interne, automatiser le processus, analyser beaucoup de data, donc des data aériens. D'une part, donc puis aller voir quelles sont les réglementations applicables. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on l'a implanté. Maintenant, on arrive à un autre niveau où est-ce qu'on veut l'amener dans le front-end. Donc, vraiment au niveau de l'expérience client. Donc, d'avoir maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui sont démocratisés, qu'on peut implanter plus facilement qu'à l'époque. Et là, tu peux avoir des modules de conversation, tu peux avoir des modules de prédiction. Donc, c'est quoi les chances que tu manques ta connexion? C'est quoi les chances que ton vol soit touché par une grève de pilote, par exemple? Donc là, on vient à donner des clés aux gens pour savoir prendre des décisions qui sont éclairées et pas être juste dans le doute de qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que je fais si ça arrive. Donc, on arrive avec des solutions qui sont beaucoup plus concrètes.
Vous arrivez à faire des prédictions? Comment on fait pour prédire?
Bien, évidemment, je suis pas le gars qui implante les modèles, mais c'est vraiment basé sur toutes sortes de données. Donc, ce qui se passe, la météo, tu vas avoir l'achalandage, tu vas avoir de l'historique. Il y a des routes qui sont plus touchées que d'autres, des historiques de lignes aériennes.
Tu disais qu'on est 25 000 Canadiens à revenir à tous les jours. 110 000 qui voyagent à tous les jours.
Oui, exact. Donc, tu as tous les voyages inter-Canada.
C'est beaucoup de données.
Ça, tu as 25 000 qui veulent revenir au Canada, tu en as 15 000 qui veulent retourner dans leur pays parce qu'ils ne sont pas Canadiens, mais ils ont pris, par exemple, Air Canada dans ce cas-ci. Donc, c'est énormément. Puis ça, c'est juste les données pour Air Canada. Donc, en voyage annuellement, là, c'est 170 à 180 millions de voyageurs au Canada là, par année.
Et puis, j'ai appelé, pourquoi on a choisi de se tourner vers l'intelligence artificielle?
Ouais, pour nous, c'était, je pense que le terme IA est galvaudé. De nos jours, je pense que tout le monde fait de l'IA. Si on écoute ça, ma grand-mère, je pense qu'elle fait de l'IA.
Pour le tricot.
Exact, elle tricote avec l'IA. Je pense que pour nous, c'était... Pour moi, si tu me poses la question demain, Thierry, c'est quoi de l'IA ou un système qui fonctionne réellement, qui est vraiment intuitif? Pour moi, c'est un système qui pense, mais tu sais, j'irais un step plus loin, c'est un système qui apprend. Tu ne fais pas d'IA si ton système n'apprend pas. Tu sais, qui dit apprendre pour apprendre de ses erreurs, dit fine-tuning, puis dit inference. Donc, si tu veux te rendre à de l'inférence puis avoir des prédictions, il faut que ton système apprenne. Nous, dans notre space, où est-ce qu'on dit qu'on veut démocratiser l'accès au financement, il y a deux façons. Il y a, t'appliques, déjà, il faut que tu trouves le grant, il faut que tu trouves la subvention ou l'appel d'offres. Puis à partir du moment où tu la trouves, après ça, tu te construis ta petite fichier Excel, puis tu te dis, ah, ben j'ai-tu appris de mes leçons ou non? Ben peut-être. Celle-là était facile, était moins facile, ainsi de suite. Première étape. Après ça, si tu le fais humainement, ben t'écris une façon. Puis là, tu te dis, ah, ben cette façon-là a fonctionné, j'ai appris de mes erreurs, je vais réécrire de la même façon. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a des humains au Parlement, à l'Assemblée nationale, qu'ils passent des nouvelles lois. Je vais donner un exemple concret. Moi, je viens de Saint-Michel, Montréal-Nord. Quand tu écrivais une subvention il y a 10 ans, on disait « jeune marginalisé ». À un moment donné, il y a quelqu'un à Ottawa qui a dit « ben on dit plus jeune marginalisé, on dit jeune qui est à risque ». Ouais. Donc la terminologie de comment tu écris a changé. C'est humainement impossible d'apprendre et de rester à jour avec tout ça. C'est impossible. Donc l'IA nous permet d'aller, désolé du terme, « fetcher l'information ». La lire, l'agréger, la désagréger et optimiser ton écriture la prochaine fois que tu vas écrire sans avoir à toujours te tenir au courant. Et quand on sait que 97% des entrepreneurs n'utilisent pas du nom dilutif pour commencer ou scaler leur business, moi je dis que, comme on dit, there's level to this. Les femmes, c'est peut-être 99,9%. Communauté dont moi je viens, c'est peut-être 99,9%. Donc, la seule façon d'avoir une certaine équité, une justice dans cette optique-là, c'est d'impliquer de l'IA. On n'a pas le choix d'impliquer de l'IA parce que l'IA et la technologie peuvent apprendre plus vite et cet apprentissage et cette connaissance-là peut germer en résultats concrets, financiers et permettre à une personne autochtone de Kanawagé d'avoir la solution pour le cancer qui décide de fermer boutique, mais parce que justement l'IA est impliquée dans le processus. Elle a plus de runway parce qu'elle vient de lander 200 000. Elle vient de lander un projet avec le ministre de la Santé qui va lui donner un million puis qu'éventuellement on va être capable de trouver une solution concrète pour les changements climatiques ici au Québec, chez nous, parce qu'on est capable.
Elle donne du pouvoir à ceux qui ont besoin.
Tout compris. Apprendre à une vitesse technologique intuitive, c'est une question, une dynamique de pouvoir. Rémi, tu viens de mettre le doigt dessus. Question de justice algorithmique, et nous, c'est ça qu'on pense. Ce qu'il a décrit, Jacob, avec éloquence, c'est une justice. C'est transférer le pouvoir entre des lobbies, compagnies aériennes, vers les consommateurs. C'est de la justice, ça.
Mais là, vous avez dû vous faire des ennemis.
Mais en même temps, t'as tout le temps une contrebalance. Hein. D'un côté, présentement, t'as le voyageur qui est tout seul, qui connaît pas trop ses droits, qui connaît pas trop le système. De l'autre côté, t'as la grande ligne aérienne qui a des armées d'avocats. Et que là, ils savent très bien qu'ils ont compris comment la game, elle se passe. Et si je dis non au passager, je rends ça difficile. Finalement, ils se tannent, puis ou je le ghost, puis là, ben je n'entends plus parler.
Exact.
Fait que là, les gens, ils se découragent. Ils ont pas tant de temps à mettre à ça. T'sais, en moyenne, on va chercher c'est à peu près 1 000 $ par passager en indemnisation, mais combien d'années tu vas mettre avant d'aller chercher ton 1 000 $ puis de te tanner puis de dire, ben, finalement, 1 000 $, ça fait 8 relances que je fais à la ligne aérienne. Ils m'ont dit non pour 3-4 raisons différentes.
Mais ça va loin, 1 000 $, quand les paniers d'épicerie ont doublé depuis
la
COVID.
Oui, mais quand ça fait 2 ans que tu travailles pour l'avoir puis que tu n'as pas de réponse,
bon point.
Tu
Merci.
Te découragé. C'est
Merci.
Ça qui arrive.
Puis défendre un droit qui devrait déjà être le leur. Ça, c'est dans la loi. C'est ça, c'est
oui.
des règles.
Oui,
qui...
mais le système étant fait comme il est, ils font juger les partis parce que la demande est faite à ligne aérienne puis l'argent sort de leur poche. Alors là, ils jugent. Et là, si personne ne fait rien, ou présentement, tu peux te revirer vers l'Office des transports du Canada, qui d'ailleurs ont 74 000 plaintes en attente. 50 % des plaintes qui sont traitées sont en faveur du passager, mais c'est 18 à 24 mois d'attente.
Et là,
tout le monde décroche. Tout le monde décroche. Les gens, ils ne veulent pas le faire.
Vraiment?
Oui. C'est un peu un accès à la justice.
Pour engagé.
Faut que tu restes engagé, il te demande une tonne de paperasse, puis là, il te relance des questions, puis là, tu reçois une réponse
à rien. Faut avoir le temps,
Il faut que tu connaisses ça, t'es pas un spécialiste de tes droits, alors que de l'autre côté, t'as une armée d'avocats qui répondent aux questions, puis qui te sortent des textes de loi.
Ouais.
Exact. Et là, ça marche comment? Alors, concrètement, demain, puis j'ai déjà pris l'avion plusieurs fois aussi, j'ai déjà eu du retard, on a déjà perdu ma valise. Première fois, je me disais, comment je fais? Je viens d'arriver en France, mes affaires sont toutes au Canada, je fais comment? Et Adam m'avait dit, je pense que c'est 100 euros que vous pouvez prendre pour des biens immédiats, un dentifrice, une brosse à dents, un t-shirt. 100 euros, c'est pas beaucoup, on va aller vite. Hein. Heureusement, c'était l'été, donc je suis faire de ton gain fort. Mais après ça, même sur le coup, j'ai pas osé, j'ai dépensé moins parce que j'avais peur que ce soit super long à me rembourser, que je dois montrer j'avais tel reçu à tel moment, puis le vol, la valise. Bon, ça, c'est bien fait. Mais il faut oser le faire. Et là, la solution, comment est-ce qu'elle vient aider l'usager, justement?
Ben, les bagages, c'est l'exemple parfait, hein, parce qu'au Canada, on a le droit jusqu'à 2 300 $ de remboursement de dépenses lorsque la valise est en retard. Donc, par contre, ça doit être des dépenses qu'on utilise.
Tu as dit combien d'argent?
2 300 $.
Moi, j'ai dit 100 euros.
Donc, il y a beaucoup de
désinformations. Ma valise est arrivée avec 2 jours de retard.
Il y a beaucoup de
désinformations dans tout ça.
Ils ont le droit de faire ça?
En fait, si personne ne se plaint, qui va aller se plaindre de dire qu'ils ne m'ont pas donné la bonne information? C'est tout un autre processus. Puis au final, quand le processus de plainte, le passager ne gagne rien, il fait juste plaindre. Puis oui, il peut y avoir une amende administrative qui va être versée, mais il y a très peu d'amendes, disons-le, qui sont en fait émis par l'Office des transports. Donc, dans une situation comme celle-ci, en fait, ton assistant virtuel va te guider pas à pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Faire ta déclaration à l'aéroport, la première étape. Après ça, voici les montants que tu as le droit. Fournis par photo tes reçus. Puis nous, on fait la réclamation en temps réel. Tu obtiens 100% du montant directement de la ligne aérienne.
OK. Et du coup, en termes de business model, si c'est 100% pour l'usager, comment vous fonctionnez pour faire vivre tout ça?
C'est une excellente question. Donc, dans le modèle de notre assistant virtuel, c'est un frais. Donc, on le vend présentement 25 $ par voyage ou 35 $ pour une couverture annuelle. Donc, les gens qui voyagent un petit peu, ils sont couverts à l'année, non illimité de voyage. Puis, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui nous permet de descendre les prix à ce niveau-là parce qu'on peut automatiser derrière.
Donc, c'est un SaaS.
Oui, exact.
Vous avez une plateforme, donc, pour ça?
Oui, exactement. Donc, sur l'appelesprit.com, les gens peuvent s'inscrire. On le distribue via les agences de voyage, certains assureurs, puis d'autres qui s'en viennent prochainement. Good.
Nice.
Ça, c'est bien, effectivement. Si en prenant le vol, c'est dans l'assurance, je ne prends jamais d'assurance en plus du vol, là, de se dire... tu disais c'est 25 $ à l'année?
25 $ par voyage ou 35 $ pour une couverture annuelle.
Moi, je prendrais 35 à l'année.
Il suffit de faire un voyage une fois, ça vaut le coup.
Tu as 3 clients.
Exactement. Mais le défi, nous, c'est effectivement de faire connaître le produit et de faire connaître les droits des passagers parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit des indemnisations.
Tu me disais un pourcentage plutôt de gens qui pourraient réclamer une indemnisation. C'était combien déjà?
C'est 91 % des gens qui vont pas jusqu'au bout du processus de leur indemnisation. Ça, c'est près de 13 milliards par année qui est laissé sur la table, et qui n'est pas récolté. Tu sais, on parlait de l'argent que tu peux aller chercher. Quand tu prends tous ces montants-là et tu les mets ensemble, ça, c'est l'argent qui reste dans les poches des lignes aériennes.
Puis de tous les vols qu'il y a, c'est quoi la proportion des vols qui sont... qui sont annulés, qui causeraient un frais.
Oui, parce que quand on regarde juste les vols retardés annulés, c'est des gros pourcentages, tu vas être dans les 65 %, mais quand tu regardes ceux qui donnent droit à des indemnisations, là, on parle environ de 7 % des vols.
Ça fait du sens.
Puis avec la grève, là, ça...
Ça va augmenter.
En fait, avec la grève, c'est plus que juste l'indemnisation, c'est toute la prise en charge. Puis ça, c'est un autre élément. Les gens, quand on dit, sont laissés à eux-mêmes, c'est qu'ils savent pas c'est quoi le devoir de la ligne aérienne. En fait, quand on va les retarder, là, si on enlève l'aspect de la grève, après 3 heures, ils devraient trouver un autre départ sur une ligne aérienne avec qui ils ont une entente commerciale. S'ils ne peuvent pas trouver un départ dans les prochaines 9 heures, ils devraient déjà trouver un billet sur n'importe quelle ligne aérienne avec qui ils n'ont pas d'entente commerciale. Et ça, c'est quelque chose que les lignes aériennes ne font jamais.
Jamais.
Et c'est quelque chose que les passagers ne savent pas, donc ils ne peuvent pas le demander. Alors ça, c'est le type d'information qu'on va donner en temps réel aux passagers sur le champ.
En temps réel?
Oui, exactement.
Exact.
Mon avion est retardé, qu'est-ce que je fais?
Tu viens d'avoir un retard de vol, tu vas recevoir un SMS qui va te dire « Hey, by the way, ton vol est en retard depuis 3 heures. Ouais. Savais-tu que la ligne aérienne doit faire ça? »
Est-ce que c'est un droit ou c'est une pratique courante que les... Ou est-ce que c'est un droit?
C'est dans la loi. La réglementation canadienne de protection des passagers aériens, c'est écrit.
Je vole après-demain, donc sur ça, je me renseigne live.
Tu vas être paré pour le...
Non, on parle d'un billet. Les gens qui sont vulnérables, finalement, on prend presque avantage d'eux.
Clairement.
C'est un peu la communauté aussi que vous visez, ceux qui disent il y a de l'argent, mais vu que tu ne le sais pas, tu es défavorisé.
Exactement.
Par rapport à ça. Ceux qui le savent, il y a un avantage. Puis ceux qui le savent, ils l'utilisent.
Ils l'utilisent, exact. C'est vrai que très bon point, Rémi. Tu sais, on regarde ça souvent dans notre créneau, dans notre verticale. Les gens qui lendent les financements, c'est ceux qui peuvent se permettre les gros. On les connaît, les gros, pas besoin de les nommer, mais tu payes le prix pour. On va te lender ça, mais on va te charger une commission. Les gens qui sont plus à risque de ne pas avoir ce type de financement-là, ce sont évidemment des gens qui sont plus vulnérables. Mais ça ne veut pas dire pour autant, puis n'importe qui ici peut relater à ce que je m'apprête à déposer dans la conversation, c'est n'importe quelle personne va te dire la clé de l'entrepreneuriat, c'est de solutionner un réel problème. Ben, au Canada, les gens qui vivent beaucoup de problèmes sont souvent issus de communautés dites désinvesties ou marginalisées. Donc, quelque part, quand tu as 97 % des gens qui n'ont pas le financement qu'ils ont besoin non dilutif, ça laisse un 3 % qui, oui, effectivement, eux maximisent le shred, maximisent le volet 1 au Québec, vont maximiser le MITAX pour voyager à droite et à gauche, le Can Export de ce monde. Mais si tu sais pas que ça existe, ben, c'est renvoyé à la trésorerie. On l'a vu récemment avec CDAP. Le gouvernement du fédéral, on dit « Ah, CDAP, après la COVID, l'adoption numérique digitale, 2,4 milliards, près de 3 milliards. » Puis au bout de 2 ans, on a juste dépensé 400 millions.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Exactement. Ben, l'argent est retourné à la trésorerie. Puis là, ils ont dû dire « c'est tellement bien passé qu'on a décidé de rapatrier l'argent. » Puis en réalité, ils revampent, ils rebrandent, puis ils remettent ça sur la table, puis t'as des gens qui sont encore sur le menu au lieu d'être à la table. Donc nous, c'est ça qu'on fait. Notre plateforme intuitive, essentiellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met tout le monde à la table. Elle dit, maintenant que tout le monde est à la table, make the best ideas win, que les meilleures idées gagnent. Si t'as une bonne idée, puis t'as un bon plan d'affaires, pas pire, tu as des états financiers pas pires, ben on peut aller fetcher cette information-là, autopopuler ta demande, te sauver de l'argent, te sauver du temps. Et toi, en l'espace de quelques temps, nos utilisateurs moyens, ils ont 37 000 $ par année. Ils payent en moyenne entre 6 000 à 10 000 ou freemium. Le freemium, ça te match. C'est juste du matching. Si tu prends le plan à 400 par mois, ben là, tu as un petit peu de matching puis des outils qui peuvent t'aider à le faire toute seule, t'autonomiser. Sinon, on a un Grant Rider Marketplace. Puis si tu payes le gros prix, oui, c'est un gros prix, c'est déjà beaucoup moins que ce que tu aurais payé. Et surtout, j'adore ce que tu as dit, c'est combien d'argent est-ce que tu laisses sur la table? Tu vas payer 10 000 tu vas en faire 37. Ça exclut le shred.
Puis le temps que tu sauves aussi, tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu veux te concentrer sur ta business, sur ton produit, tu ne veux pas être tout le temps en train de chercher chercher du financement.
Puis on sait que c'est juste ça qu'on fait. Qu'on soit en fundraising mode ou non, on dilue notre créativité à essayer d'embaucher du bon monde, à faire des deals, à des cycles de vente qui sont plus longs, à essayer de remplir des demandes de subventions, de rentrer dans tel accélérateur, incubateur. Et l'écosystème est fait. Désolé de déposer ça sur votre podcast, mais je crois que l'écosystème est fait comme ça. Ce n'est pas un hasard parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs au Québec puis il n'y a pas assez de talent dans les accélérateurs incubateurs. Désolé, je l'ai dit, mais nous, on est le produit. Ils écrivent toutes des subventions pour avoir du cash puis en réalité, on devient juste du bétail. On nous rentre dans des programmes d'accélération, on nous rentre dans des programmes d'incubation, puis on s'en fout que tu réussisses. tu as fait tel workshop, tu as eu tel mentorat. Les entrepreneurs au Québec sont surmentorés et sous-financés. Et quand on nous donne du financement, on nous traite comme des jeunes en CPE. C'est littéralement ça. Puis nous, ce qu'on fait, c'est ça qu'on fait. On vient dire, non, Jacob, il sait comment construire une unicorne québécoise. Fais-y confiance.
Il y a trop de gatekeeping.
T'as tout compris. Puis il faut que je sois ami avec toi. Puis si on est des petits amis, ben là, je vais avoir ci. Puis sinon, je me rends là. Quand en réalité, s'il y a la meilleure idée, qui gagne? Laisse-le avoir l'accès au financement. Laisse-le lander. Bloque-le pas par un incubateur. Bloque-le pas par un mentor. Oblige-le pas à prendre un consultant nécessairement. Mais il y en a des bons consultants. Je t'assis en face d'un excellent consultant. Mais quand ils sont bons, sortez l'argent. Mm-hmm. Empowerer, donner l'autonomisation à l'entrepreneur d'aller choisir son consultant de la bonne façon. Donc nous, c'est ça qu'on croit. On croit qu'on est juste une partie de la solution dans la vraie démocratisation puis l'expansion de l'innovation au Québec parce qu'on est talentueux au Québec. On est, on est foutument fort, mais il y a trop de gatekeeping. Ouais. C'est ridicule, il y a trop de politique. Puis en réalité, c'est nous qui perdons. C'est les bons consultants qui perdent, les belles compagnies, les belles business SaaS, puis il devrait y avoir, comme ça, c'est un unicorn, c'est sûr, là, tu sais. Puis je veux pas dire que nous, mais je pense que nous aussi. Puis quelque part, ben, si on est capable, encore une fois, de rendre l'accès à ce financement non-dilutif, c'est ton cash flow qui est extend, c'est ton runway qui est extendé, ton burn rate diminue. Lui, il peut créer encore plus de belles solutions, il peut recruter des talents, il peut créer des jobs.
Le recrutement, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose de super difficile.
C'est long. Tu t'embauches tranquillement, puis tu renvoies rapidement. Ouais. Hey, c'est rough, là.
Ouais.
C'est rough. Donc, non, je pense qu'on les deux, on a le luxe d'avoir une solution qui amène de la valeur réelle. Puis c'est un honneur de parler de ça avec vous dans votre podcast.
Thierry, Jacob, je parlerai avec vous encore tellement longtemps.
Ça sera le fun.
On est à la fin de notre temps déjà, mais je vous ai trouvé super inspirant. Vous êtes ceux qui démontrez la voie, qui montrez la voie. Est-ce que vous auriez une chose à dire pour inspirer les gens? C'est ta clientèle, essentiellement.
Ouais, ouais.
Des gens qui vont être à l'endroit où vous étiez il n'y a pas si longtemps.
Ben, moi, je dirais pour les jeunes entrepreneurs tous les entrepreneurs, d'aller utiliser la solution. Déjà, ça va sauver du temps. Hein? Puis, sérieusement, une très belle solution. Puis, c'est incroyable, c'est une belle entreprise.
Merci, Jacob. Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est pas parce que vous avez, puis ça, je l'ai vécu. Nous, on est bootstrappés au bout de 2 ans et demi. Mais là, on s'apprête à potentiellement lever. C'est pas parce que tu as eu un mentor dans un incubateur, un accélérateur qui dit que ton idée, ça va nulle part, que tu as besoin de l'écouter. Les mentors au Québec, au Canada, c'est comme des VC. C'est des glorified stock pickers qui n'ont pas toujours la solution infuse. C'est pas pour les attaquer. Mais ton mentor d'aujourd'hui, c'est peut-être pas aussi ton mentor de demain. Puis c'est pas parce qu'il t'a dit non que t'es obligé de le croire. Puis de penser que lui, il a vraiment la science infuse. Si tu crois en ton projet, tu solutionnes un réel problème. Entoure-toi de mentors qui peuvent t'accompagner à chaque échelon de ton parcours. Quand t'es incubé, c'est une chose. Puis t'es dans l'idéation, c'est une chose. Ton prochain mentor, faut qu'il t'aide à accélérer. L'autre, il faut que tu aides à scaler. Après ça, quand tu scales, il faut que tu ailles public ou que tu raises une round série A. C'est pas vrai que ton gars qui t'a incubé, il va t'aider à te mentorer pour que tu sois en série A, série B, ou comme on va voir Jacob et son équipe, avoir un IPO d'ici 5 ans. C'est ça mon conseil à ceux qui nous regardent.
Écoute, je ferai un peu de pouce là-dessus parce que tu as tout à fait raison, mais l'importance de s'entourer puis de parler de son produit, de parler de son entreprise, d'en parler à plus de personnes possible, d'être présent dans le
rêvement,
de rêver, de faire rêver les gens. Plus tu vas en parler, plus tu vas t'entourer de gens forts. Puis oui, tu as raison, c'est peut-être celui avec qui tu as commencé, c'est peut-être pas celui avec qui tu vas
finir. C'est correct.
Et c'est correct, mais qu'il y en ait beaucoup, ça, c'est plus facile. C'est des courroies de transmission, c'est des gens qui vont te présenter d'autres personnes. On s'est rencontrés par des gens qu'on connaît en commun.
Ouais.
C'est comme ça que ça... Effectivement.
Exact, Rémi. T'es fort sur ça.
On finit sur une note super positive. Merci beaucoup d'être venu, Jacob et Thierry.
Merci
pour vos conseils, ça a été super inspirant. Merci Rémi d'être là aussi
aujourd'hui à la table. Merci à vous d'être vous.
Avec grand plaisir. Merci à ceux qui nous écoutent à la maison, à la cuisine, peu importe. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou sur notre site internet explore.ai. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Hello.
Merci.
Merci à vous autres.
On vient de voir que l'intelligence artificielle peut devenir un précieux outil de simplification pour alléger les lourdeurs administratives qui freinent l'accès à des services essentiels. Imaginez ces casse-têtes administratifs comme un labyrinthe complexe. Formulaires, délais, exigences opaques. Un parcours qui peut décourager même les plus déterminés. Avec leur approche concrète, Thierry Dor et Jacob Charbonneau nous montrent que l'IA peut agir comme une carte interactive pour naviguer plus rapidement dans ce labyrinthe. Thierry travaille à rendre les demandes de financement plus accessibles, tandis que Jacob simplifie les réclamations de voyage avec des outils qui redonnent le pouvoir à l'utilisateur. Et si vous avez écouté notre Vox Pop hors saison sur YouTube, vous avez peut-être découvert Admi, aujourd'hui connu sous le nom de Askaya. Cette jeune pousse montréalaise utilise aussi l'IA pour aider les personnes immigrantes à naviguer les démarches complexes des visas d'études et de travail. Chacun, à leur manière, contribue à ouvrir des portes, réduire les détours et à rendre le système plus juste, plus humain, plus fluide. Alors que l'administration semble parfois conçue pour tester notre patience, l'IA, bien utilisée, peut nous aider à reprendre le contrôle du parcours. À bientôt pour notre prochain épisode.